Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Nous sommes le 1er mai et depuis le 1er janvier, c'est-à-dire en 4 mois, ils sont une trentaine de policiers à avoir mis fin à leur jour. C'est presque autant que pour toute l'année dernière. La tendance pour cette année est donc bien plus élevée que tout ce que les forces de l'ordre ont connu jusqu'ici. Difficile d'expliquer les ressorts d'un tel acte par nature éminemment personnel et intime, mais l'accélération interroge et inquiète évidemment. La sursollicitation des forces de l'ordre depuis quelques mois vient immédiatement à l'esprit, mais il y a sans doute d'autres raisons et probablement des moyens de limiter le phénomène. Police en surchauffe, quelle solution ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous aujourd'hui, avec nous en studio. Jean-Michel Schlosser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, ancien inspecteur de police, chercheur associé au CEREP, c'est le Centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations à l'Université de Reims, et au CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, c'est à l'Université de Versailles. Et par téléphone, Jean-Marc Bailleul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, le SCSI-CFDT, syndicat majoritaire. Une trentaine de suicides depuis le début de l'année dans la police. Vous confirmez que c'est du jamais vu, Jean-Marc Bailleul ?
Alors, on a déjà connu ça malheureusement il y a une quinzaine d'années. Mais ce qu'il faut retenir, au-delà du chiffre qui est effectivement très élevé pour un premier trimestre, c'est qu'on a eu plus de 1000 policiers qui se sont suicidés depuis les 20 dernières années. Et 1000, c'est le chiffre qui doit faire parler, c'est 36% plus élevé que la moyenne de la population. Et donc ça interroge, et les questions que vous avez posées en préambule sont les bonnes.
Jean-Michel Schlosser, qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre, ces deux chiffres, disons, 30 depuis le début de l'année, 1000 depuis 20 ans, est-ce qu'on se suicide plus dans la police, vous qui êtes sociologue, que dans le reste de la population?
Oui, ça c'est une constante qui a toujours été repérée depuis très longtemps. L'institution policière, le métier de policier, compte beaucoup plus de suicidés que les autres catégories professionnelles. C'est un fait malheureusement qui peut s'expliquer par les difficultés du métier, mais pas que. Mais effectivement, il y a beaucoup plus de suicides chez les policiers. C'est un fait indéniable.
Je le disais, il faut se garder de conclusions hâtives sur les causes qui sont forcément complexes et intimes. Mais je vais tout de même vous demander à tous les deux votre sentiment, votre analyse sur les raisons de cette tendance. Jean-Marc Bailleul, d'abord.
Bah écoutez, alors d'abord, personne ne peut ignorer que depuis 2015, l'ensemble des forces de l'ordre, et particulièrement celles qui exercent dans la sécurité publique, donc il y a deux directions qui sont particulièrement touchées par les suicides. C'est la direction centrale de la sécurité publique, c'est donc tous les policiers qui assurent la police 24 heures sur 24 auprès des citoyens dans toutes les villes de France. Et puis la direction de l'agglomération parisienne, donc elle est le pendant pour la préfecture de police, c'est là où il y a eu le plus de suicides. Donc c'est assez révélateur que c'est cette mission de proximité où on est confronté le plus à la mort, parce que c'est ces forces-là qui vont auprès des gens qui se suicident, donc qui restent près des cadavres en attendant l'arrivée des pompiers ou pour évacuer les corps. C'est celles qui interviennent au plus près des accidents de la route, donc qui voient des cadavres, des familles qui sont touchées, qui doivent annoncer la mort à la famille, donc qui, quelque part, dans leur ADN de policiers depuis leur entrée dans la police jusqu'au passage à l'acte, lorsque c'est vrai, souvent ils ont une faiblesse à titre personnel, c'est ceux qui ont été le plus confrontés à la mort et à la misère sociale, parce que on va aussi forcément dans des milieux les plus défavorisés, avec des problèmes de violence intrafamiliale, sur les mineurs, etc. etc. Donc c'est vraiment cette sécurité publique qui est la plus confrontée au suicide, et donc on doit travailler notamment sur eux, puisque si je peux finir là-dessus en termes d'exemple,
oui, allez-y.
On a moins de suicides, même s'il y en a eu, en police judiciaire et chez les CRS. Ce qui est assez révélateur. Pourquoi ? Parce que c'est des services où ils sont beaucoup ensemble. Il y a une cohésion beaucoup plus forte que dans les services de sécurité publique. Et c'est sûrement une piste qu'il faut étudier pour non pas arriver à zéro suicide, parce que si on pense que malheureusement on n'y arrivera pas, mais faire en sorte qu'on en ait moins qu'aujourd'hui.
Ce que vient de décrire Jean-Marc Bailleul, Jean-Michel Schlosser, c'est assez typique du syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire que c'est des policiers qui sont confrontés directement à la mort des gens, celles qui doivent annoncer, c'est éventuellement de leurs collègues. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pris en compte par la hiérarchie policière ces derniers temps?
Alors c'est quelque chose qui est pris en compte par l'institution, je viendrai sur la hiérarchie peut-être tout à l'heure, sur l'institution plus globalement policière depuis pas mal de temps déjà. Il y a eu des structures qui sont mises en place avec des psychologues de soutien. Cela dit, il est vrai que bon, ça ne suffit pas. Il y a d'autres choses qui sont à rapporter, notamment justement au niveau de la hiérarchie. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Jean-Marc Bailleul, il est vrai que on sent bien la différence entre des services dans lesquels effectivement la cohésion est plus forte, et je note également que dans ces services-là, la hiérarchie est moins marquée, la vie de groupe est plus présente, les horaires sont différents, hein, les horaires cycliques, c'est quelque chose qui peut être assez déstructurant, parce qu'il n'y a pas une vie continue, il n'y a pas une osmose continue dans le groupe, telle qu'on peut le connaître dans les services d'investigation.
Ça veut dire que les équipes changent et donc il y a moins de solidarité, c'est ça que vous êtes en train de dire ?
Ça pourrait être une piste, effectivement, hein, le fait d'être moins constamment ensemble, de vivre moins ensemble que ce qui se fait dans les services traditionnels d'investigation ou de renseignement. Il y a donc moins la possibilité d'échange, de parler à son collègue, hein, éventuellement. Alors, pour revenir sur ce qui a été mis en place par l'institution depuis quelques années maintenant, les psychologues de soutien, c'est une chose qui existe. Bon, le problème, c'est que on sait très bien que le policier hésite à se confier. Et a fortiori à des psychologues qui sont finalement perçus comme étant des psychologues de l'institution, même si toutes mesures sont prises pour que le soin, la cure, si je puis dire, soit fait de façon telle qu'elle serait faite en ville. Mais enfin, les policiers se méfient, et même s'il n'y a pas de rapport avec la hiérarchie, il y a toujours cette crainte de devoir parler à l'intérieur de choses qu'on a déjà du mal d'évoquer entre collègues.
Jean-Marc Bailleul, c'est quelque chose, la fatigue psychologique, on va l'appeler comme ça, hein, dont on parle difficilement dans ce milieu.
Alors oui, c'est un sujet malheureusement encore tabou. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on désacralise la mission de policier. C'est-à-dire que pour beaucoup, et quelquefois pour la hiérarchie, un policier ne doit pas avoir de faiblesse. Et je crois que c'est vraiment le message qu'a voulu faire passer, il faut lui reconnaître ça, M. Castaner, dernièrement. C'est qu'il faut absolument que la parole se libère, qu'on ne juge pas ceux qui se confient sur une faiblesse psychologique, qui vont voir un psychologue. Il y a à peu près un réseau de plus de 80 psychologues qui sont disponibles et qui reconnaissent qu'il y a encore une difficulté, une appréhension pour aller les voir. La hiérarchie souvent perçoit le fait qu'un gardien de la paix, un officier ou même, pourquoi pas, un commissaire aille voir un psychologue comme quelque part... une défiance vis-à-vis de la hiérarchie, parce que, effectivement, même si c'est pas la cause numéro un, il y a souvent une mise en cause de la hiérarchie qui soit ne prend pas en compte la souffrance morale cumulée, un petit peu comme une éponge qu'on est amené à avoir dans nos missions. Il faut qu'à un moment donné, quand on a une faiblesse personnelle, ben c'est là que ça explose et que le risque du passage à l'acte est énorme. Et nous, ce qu'on demande, c'est justement travailler en amont et pas lorsqu'on arrive justement à la limite du passage à l'acte, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on travaille beaucoup plus en amont, dès la formation à l'école de police, pour désacraliser cette faiblesse qui est morale, doit arriver aux policiers à sa carrière. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes, on est des citoyens comme les autres, sauf qu'on a une mission qui est beaucoup plus compliquée, parce qu'on est amené à absorber et à voir la douleur des autres, de la population et puis de la société.
Jean-Michel Schlosser, je vous voyais réagir là-dessus. Ici, il y a une question de formation, de façon de présenter les choses.
C'est vrai que en formation actuellement, ce sont des choses qui ne sont pas suffisamment développées. Il y aurait un travail à faire, mais il est très difficile, effectivement, aussi bien vis-à-vis de la hiérarchie que vis-à-vis des fonctionnaires en règle générale. Bon, le policier a une carapace, cette carapace elle est connue. C'est un homme fort, c'est un homme qui ne se plaint pas. Il tient l'édifice, c'est lui qui contient la violence, donc il peut pas faire part de son propre trouble, de ses propres difficultés. parce que sinon, qui le ferait à sa place? Et avouer qu'on a un problème, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel, ou les deux, comme c'est bien souvent le cas, c'est quelque part avoir un aveu de faiblesse, aussi bien vis-à-vis des collègues que vis-à-vis de la hiérarchie, qui, quelquefois, va également dans ce sens-là. Et c'est vrai que au niveau de la formation, beaucoup de choses seraient à faire, à inventer peut-être, hein, notamment en direction de la hiérarchie.
Jean-Marc Bailleul, on en revient peut-être quelque part à une question de management et des moyens. Il faut peut-être un peu plus d'humains. On parlait d'équipes qui tournent tout à l'heure et qui ne permettent pas de parler, de se confier avec des collègues qu'on voit régulièrement.
Bah, le temps de travail, quelque part, est un vrai sujet. Alors, les officiers que je représente majoritairement, ça fait 10 ans que les officiers n'ont plus d'heures supplémentaires. C'est un vrai problème. Et il y a une fatigue qui s'exerce avec un vieillissement.
C'est-à-dire qu'en fait, les heures supplémentaires, ils les font, mais elles sont pas payées. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Alors, elles sont ni payées, ni récupérées. Les gardes de la paix, eux, les notes, peuvent les récupérer quand on peut. Mais les officiers, depuis 10 ans, on est en contentieux avec notre ministère. L'Europe a donné tort au ministère de l'Intérieur. 10 ans après, c'est toujours pas réglé. Donc ça, ça a forcément un impact sur l'équilibre de la vie professionnelle et la vie sociale et familiale du policier. Et nous, on ne lâchera pas l'affaire tant que notre ministre n'aura pas pris une décision pour qu'on revienne à quelque chose de plus européen qui permette d'avoir un équilibre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, il faut mettre en place des formations communes entre les corps. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que la police on cloisonne, parce que c'est la réalité dans beaucoup de cas, avec 1700 commissaires, 8000 officiers et puis 120 000 gardes de la paix, qui, dans leur formation initiale, ne se croisent pas, ça devrait être le cas à partir de 2020, dans les formations continues, les stages, et la préfecture de police l'a fait, on mélange des commissaires, des officiers et des gardiens. Et je crois que ça, c'est une clé. C'est-à-dire qu'il faut que on puisse se parler aussi dans la formation, au travers le sport, parce qu'aujourd'hui le sport c'est plus possible et on c'est un facteur de cohésion. Et puis disons clairement, il y a eu des dérives il y a quelques années autour de l'alcool dans la police, c'est vrai, Monsieur Jox y a remédié par des directives assez claires, mais sans tomber justement dans l'alcool, pour autant il faut remettre des systèmes de cohésion en place, c'est-à-dire des mouvements autour d'une association au sein du commissariat, autour du sport, réunir les familles, plus se parler, justement pour qu'on sente quand l'un d'entre nous a une faiblesse, qu'on la décèle. Voilà, et que ça soit pas trop tard et que tout le monde tombe de l'armoire quand un collègue passe à l'acte. Et je profite aussi de rappeler que l'arme, parce que c'est aussi un sujet de dire...
On va en parler, j'ai prévu d'en parler, oui, absolument.
Ah, pardon.
Oui, allez-y.
D'accord.
Oui.
Non, mais justement, le problème de l'arme, en soi, puisqu'on a la possibilité d'avoir l'arme depuis 2015, chez nous, hein, au-delà du simplement le poste de travail, et en fait, on s'aperçoit que à l'étude des chiffres, il n'y a pas eu plus de suicides avec l'arme qu'avant 2015. Donc ça prouve bien que quand le policier veut passer à l'acte, de toute manière, il passera à l'acte, quel que soit le moyen. L'arme est un facilitateur, mais c'est pas parce qu'on l'a plus qu'on passe plus à l'acte.
Cette question de l'arme de service à disposition après le service, Jean-Michel Schlosser, c'est une question qui se pose quand même si d'après Jean-Marc Bailleul, eh bien il y a pas plus de passage à l'acte avec l'arme de service. On rappelle que cette arme, elle est laissée aux policiers depuis 2015 pour assurer leur propre sécurité et celle des autres en cas d'attaque terroriste dont ils seraient témoins.
Ah là, je rejoins complètement Jean-Marc Bailleul pour deux raisons. La première, c'est que les policiers qui se suicident ou que seraient tentés de se suicider avec leur arme de service vont pas forcément le faire entre 20h et 6h du matin.
Ils peuvent le faire au commissariat.
Bien évidemment, dès qu'ils ont l'arme à la main, d'une part. Et d'autre part, je me souviens, moi, avoir connu une période où, notamment en police judiciaire, étant de service, comme on disait à l'époque, 24 heures sur 24, et c'était bien avant 2015, nous avions nos armes à la maison. On avait l'arme tout le temps avec nous et il n'y avait pas pour autant plus de suicides. Je pense pas que le fait de détenir une arme en dehors des heures de service soit un facteur aggravant au niveau du nombre de suicides avec l'arme.
On va quand même en parler. La police est-elle sursollicitée actuellement? En préparant cette émission, je me suis aperçu que notamment en région parisienne, mais c'est valable peut-être aussi à Bordeaux, à Toulouse, il y avait des policiers qui, en raison de maintien de l'ordre le samedi, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, avaient un week-end sur 6. Ça pèse beaucoup, Jean-Marc Bailleul?
Alors, c'est pas
un week-end sur 6 en famille, hein, c'est ce que je voulais dire.
Voilà. Alors en fait, c'est pas lié vraiment au maintien de l'ordre. Ça, c'est le système cyclique des gardiens de la paix en sécurité publique. Ça s'appelle le système 4-2. Effectivement, ça leur donne un samedi, un dimanche complet qu'une fois toutes les 6 semaines. En revanche, à cause du maintien de l'ordre, depuis le mois de novembre, il y a des rappels sur ce seul week-end de repos qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir une vie sociale, familiale, à minima. C'est un vrai sujet. Je parlais du temps de travail tout à l'heure. Les syndicats de gardiens de la paix se battent pour qu'il y ait un cycle qui dit vacation forte qui permette d'avoir un week-end sur deux, qui sera fondamentalement différent. Tous les endroits où c'est testé, les fonctionnaires sont satisfaits de ce cycle-là parce que ça leur donne vraiment un équilibre. Avec des vacations plus longues, certes, mais ça leur donne un week-end sur deux. Mais évidemment que le temps de travail et les week-ends successifs depuis le 17 novembre aident. Pourquoi ? À la préfecture de police notamment, mais aussi dans les villes que vous avez citées, même des villes moyennes comme Tours, Le Mans, Angers, où il y a du maintien de l'ordre tous les week-ends. Donc on est obligé de rappeler le samedi, l'après-midi notamment, des fonctionnaires de sûreté départementale, donc des civils, de la BAC, qui normalement ne travaillent pas ce samedi-là, pour venir renforcer les services qui sont plus dédiés au maintien de l'ordre. Donc forcément, ça s'accumule aux heures supplémentaires faites sur leur mission normale, et ça déborde. Et ça fatigue. Alors, ils répondent présent, mais cette fatigue cumulée, je rajoute depuis 2015, forcément pèse sur ceux qui sont les plus fragiles et qui ont des difficultés à un moment donné et dans leur vie professionnelle et dans leur vie familiale, évidemment.
La doctrine de maintien de l'ordre telle qu'elle est définie et pratiquée depuis le début du mouvement des Gilets jaunes pourrait-elle être différente, moins martial et moins usante? Je m'explique, il y a des policiers, vous venez d'en parler, de la BAC par exemple, qui ne sont pas a priori formés pour ce genre d'action. Est-ce que ça peut peser, Jean-Michel Schlosser?
Or, ça peut éventuellement peser, mais s'agissant des policiers de la BAC dont vous parlez, qui interviennent dans les manifestations sans avoir le cursus totalement académique en matière de rétablissement et de maintien de l'ordre, n'oublions pas que c'est pas nouveau. Hein. Les BAC ont été depuis très longtemps, alors on ne les appelait pas des dards ou des braves, mais les BAC ont été employés depuis plusieurs années maintenant dans le cadre des manifestations, notamment lorsque, au sein de ces manifestations, il y a des individus, Black Bloc ou pas d'ailleurs, peu importe en l'occurrence, qui se livrent à des exactions et à des infractions, crimes ou délits prévus et réprimés par le législateur, et où la police se trouve donc en plus du champ du rétablissement de l'ordre, face à un champ judiciaire qui est d'interpeller les auteurs et de les déférer devant la justice. Et à ce titre, les BAC sont des unités tout à fait opérationnelles, tout à fait formées pour ça. Donc là, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit de nature à créer du suremploi. En revanche, que ce soit pour les BAC ou pour les unités traditionnelles de maintien de l'ordre, mais je pense également aux gens de l'investigation ou du renseignement qui, eux aussi, sont là tous les week-ends depuis un certain temps, et même certains fonctionnaires administratifs à qui on demande du travail de logistique, hein, notamment pour réparer les plateaux repas. Ça peut sembler humoristique, mais c'est pourtant la réalité. Il est évident qu'on parlait de post-traumatic syndrome, le syndrome post-traumatique tout à l'heure. Il faut envisager le stress aigu, et c'est un stress aigu, tendu, permanent depuis 4 mois, 5 mois. Et ça joue énormément aussi.
Est-ce que Jean-Marc Bailleul, en quelques secondes, le rapport entre la police et une certaine partie de la population qui s'est un petit peu dégradée depuis 2015, où les policiers étaient applaudis, ça pèse aussi?
Ah bah évidemment, parce que le policier, il est rentré pour rendre service aux citoyens. Il a une notion de la justice, de l'équité, et quelque part de voir qu'il se fait insulter, voire, on l'a vu encore, on appelle au suicide des policiers ou un suicidé.
Ça s'est vu encore aujourd'hui.
Est à moitié pardonné. Je vais prendre l'exemple de Montpellier avant-hier, où il a été scandé devant le palais de justice. Capitaine, pan, pourquoi? Ça faisait référence à une capitaine, ouais. Elisabeth, qui s'est suicidée il y a une semaine. Ouais. Donc vous voyez un peu, c'est forcément traumatisant pour les collègues dans leur ensemble.
Merci Jean-Marc Bailleul, merci à vous également Jean-Michel Schlosser d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Alice Ménard. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.